un tout petit peu avant. Je crois qu'on peut pas là. Allez, ça c'est. Non, c'est ici, c'est là. C'est ça. Ce beau soleil merveilleux. Je reprends chapitre 3, je sais pas si vous avez la même. 642B, 642B21. Autre chose, ça on l'a déjà vu, mais c'est bon de le reprendre. C'est suivant la privation qu'il faudra diviser. Et c'est bien ainsi que divisent les praticiens de la dichotomie. Donc les praticiens de la dichotomie, c'est nécessairement nos chers platoniciens. Mais s'il n'y a pas de différence de la privation en tant que privation, car il ne peut y avoir des espèces du non-être. Par exemple, de l'absence de pied ou d'aile, comme il y en a de la présence du pied ou de l'aile. Vous voyez donc là, Aristote souligne quelque chose de très important, c'est que privation, c'est non-être dans un sujet. Et qu'il n'y a pas de différence, diaphora. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. La fameuse diaphora. La différence. Mais il n'y a pas de différence de la privation. Ou qu'est-ce des diaphora stéréseos et stéresis de la privation en tant que privation. Car, alors la raison, car il n'y a pas d'espèce du non-être. Par exemple, de l'absence de pied ou d'aile, comme il y en a de la présence du pied et de l'aile. Alors là, il serait très intéressant à réfléchir là-dessus. La diaphora. La diaphora, ça joue un rôle très important dans les oppositions. Pourquoi ne peut-il pas y avoir de diaphora de la privation? Comment se fait-il que la privation comme telle n'implique pas diaphora, différence? C'est comme ça qu'il traduit. Et je crois que c'est bien. Ou opposition. Diaphora. L'avantage de différence, c'est que c'est diaphora. Alors, il ne peut pas y avoir de différence du non-être. Il ne peut pas y avoir, parce que il ne peut y avoir d'opposition qu'à partir d'une forme. La diaphora, c'est les opposés. Alors, les opposés sont tous les deux les contraires. C'est cette fameuse table d'Aristote qui donne après les prédicaments où Aristote donne toutes les oppositions. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Il met en ordre les différentes oppositions. Alors, l'opposition de contrariété, c'est l'opposition maxima à l'intérieur d'un sujet. Et les contraires comme tels, tous les deux, c'est positif. Tandis que la privation et la possession, c'est négatif et positif. La avéré, l'habitus et la privation. Il y a une opposition privative entre les deux. Mais au sens strict, il n'y a pas de différence. Il ne peut pas y avoir de différence parce que c'est tout d'un être. Il faut pourtant qu'une différence générale comporte des espèces. tone, diaphorone, aïe, men catolou, esti, et ecusi aide. Alors, ça c'est l'opposé. Il faut pourtant qu'une, bon, qu'une différence générale, c'est pas tout à fait ça. C'est des diaphorones, des choses différentes. Des choses différentes. Celles catolou, catolou, universelles. Celles qui sont prises d'une manière universelle. Celles qui sont catolou. Elles ont à aider des espèces. Donc il faut qu'une différence générale comprenne des espèces. C'est très difficile. Les différences, des différences, celles qui sont prises en général, ont des espèces. S'il n'y en a pas, en quoi serait-ce une différence générale et non particulière ? En réalité, parmi les différences, il y en a qui sont générales, universelles. Ils traduisent toujours le catholou universel par le général. J'aime pas beaucoup. Général, c'est pas du tout. Catholou, pour Aristote, c'est universel. Or, au fond, c'est pas tout à fait la même chose. Général et universel. N'est-ce pas ? Le général, c'est tout ce qu'on veut. Puisque c'est le général. Tandis que le catholou, c'est l'universel, ce qui est attribué à beaucoup. C'est beaucoup moins précis. En réalité, parmi les différences, il y en a qui sont universelles et qui comportent des espèces. Par exemple, ailées. Il y a en effet des ailes non fendues et des ailes fendues. Donc on prend ailées universellement. Comme un thème universel. Bon. Et non plus, ailé à l'égard de tel animal. Alors, ailé, près d'une façon générale, c'est les ailes fendues ou les ailes non fendues. De même, pour le fait d'avoir des pieds qui se divisent en pieds à fente multiples. Alors, on a des doigts de pied. Des pieds à fente multiples, des doigts de pied. En pied, en fente unique. Il n'y a qu'une seule fente. Le sabot. Le sabot de la vache. C'est pas la même chose, hein. Dites pas que la vache a des pieds. Mais ici, on dit des pieds. Pieds fourchus et pieds sans fente et individus. Comme les solipèdes. Il est difficile, d'ailleurs, de faire la répartition même suivant les différences qui comportent des divisions, en sorte que chaque animal y soit compris et que le même animal ne tombe pas sous plusieurs divisions. Ailé, c'est une propriété de l'animal. Si je prends ailé d'une façon universelle, j'ai des différences. J'ai donc des oppositions à l'intérieur de ailé. Non ailé, comme tel, n'a pas d'opposition. Rien ne s'oppose au non-être. Rien ne s'oppose à la privation. Il n'y a donc pas de différence. Mais dès que je prends le point de vue positif, il y a des différences. Bon, c'est ça qu'Aristote veut montrer. Vous voyez ? Une propriété, c'est quelque chose de positif. Ailé, c'est une propriété. Il y a des animaux ailés et des animaux qui ne sont pas ailés. L'homme est un animal non ailé. Tandis que l'oiseau est un animal ailé. Alors dès que vous avez ailé, vous pouvez avoir des subdivisions. Tandis que non ailé, non. Oui. C'est-à-dire que celui qui comporte une privation ne s'oppose à personne d'autre. Le non ailé ne s'oppose pas à la diversité des ailés. Vous ne pouvez pas opposer le non-ailé à ailé de telle ou telle manière. puisque la négation portant sur elle est supprime toute comparaison. Oui. Seul ce qui est positif peut s'opposer à tel ou tel, il peut avoir des subdivisions. Et ça, c'est de la bonne logique. Hein. Vous n'avez qu'à réfléchir 2 minutes et vous comprenez tout de suite. C'est pas tellement difficile. Il est difficile, d'ailleurs, de faire la répartition, même suivant les différences qui comportent des divisions, en sorte que chaque animal y soit compris et que le même animal ne tombe pas sous plusieurs divisions. Ainsi, pour ailé, non ailé. Il y a des cas où un animal est les deux à la fois. Ailé et non ailé. Telle la fourmi. La luciole et d'autres. La luciole, c'est quoi comme animal? Quoi? Ah, c'est vert luisant, lui. Ah oui, avant. Oui, parce que c'est l'ox. Donc, c'est l'animal qui lui. Alors, la fourmi est ailée et non ailée. Il y a des fourmis ailées et des fourmis non ailées. Il y a des vers luisants qui sont ailés. C'est un vieux qui des vers luisants ailés. Quoi? Sur la côte.
Sur leur stade de développement. C'est comme pour les fourmis aussi.
C'est le stade de développement.
Il y a moins, oui, des ailes.
Ah oui. Ah, c'est la fourmi qui grandit, qui est ailée.
Oui, ça peut, oui, ça peut être.
Ah, ça peut être. Et quand elle est petite, évidemment, elle n'a pas d'ailes.
Ou la mère, si, quand elle est petite.
Elle a des ailes quand elle est petite, et puis quand elle grandit, les ailes tombent. Oui, un gosse avec des ailes, et puis quand il grandit, il y aurait des bras. L'évolution. On voit très bien ça. Mais cela devient extrêmement difficile, ou même impossible, lorsqu'il s'agit des caractéristiques négatives. Car il faut que chacune des différences s'applique à une espèce dernière et comporte aussi par conséquent à la différence opposée et correspond aussi par conséquent à la différence opposée. Si donc il n'est pas possible qu'à des animaux d'espèces différentes appartienne une seule espèce ou substance, donc à des animaux d'espèces différentes appartiennent une seule espèce de substance indivisible. Mais s'il doit y avoir toujours une différence, par exemple, entre oiseaux et hommes, la bipédalité est hétérogène et toute différente. Même en les posant tous les deux comme sanguins, puisque le sang devrait alors être différent. Autrement, il faudrait poser que le sang n'ait rien d'essence. Dans ce cas, une seule différence appartiendrait aux deux. Et s'il en est ainsi, l'impossibilité de prendre une privation comme différence devient évidente. Vous avez compris l'évidence, hein? Et voyez bien, et s'il en est ainsi, l'impossibilité de prendre une privation comme différence devient évidente. C'est ça qu'il veut montrer. Hein. C'est que la diaphora ne touche pas à la privation. La diaphora, donc, la différence ne touche pas à la privation. Et vous voyez pourquoi tout de suite ou non? La diaphora touche la forme. Toujours à l'intérieur des formes qu'il y a une diaphora. La différence, c'est l'opposition à l'intérieur des formes. Si la privation et la négation de la forme, il ne peut pas y avoir de différence. Les différences devront être égales aux groupes indivisibles. Si ces groupes sont indivisibles, elles seront aussi indivisibles et non communes. Mais même s'il arrive qu'on trouve une différence commune qui soit d'une part indivisible, il est clair que sous cette différence commune se trouveraient rangés dans la même classe des animaux qui sont différents. Il s'ensuit nécessairement que si les différences sur lesquelles se rangent les groupes indivisibles sont propres à chacun, il n'y en aura aucune de commun. Sinon, des animaux différents devraient venir sous la même différence. Or, il ne faut ni que ce qui est identique et indivisible soit placé dans plusieurs subdivisions, ni que des êtres différents soient dans la même. Animaux et divisions doivent se correspondre. On voit très bien la position. Il ressort de cela qu'on ne peut atteindre les espèces indivisibles par la méthode de division. Voilà ce qui est important. C'est QFD. Ce qu'il faut démontrer, c'est que la méthode de division ne peut pas atteindre les espèces indivisibles. Il ressort de cela qu'on ne peut atteindre les espèces indivisibles par méthode de division qu'emploient les dichotomistes, soit pour les animaux, soit pour tout autre chose. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Phaneron, toinoun, oti, oukesti, labein, ta, atoma, eide. Donc les atoma, eide, c'est les espèces indivisibles. Atoma. Atome. C'est français, ça. Alors les atoma, les ta, atoma. Les ta, atoma, eide. Donc les formes qui sont atomiques. Ils sont des atomes, ils sont indivisibles. Donc, il est évident qu'on ne peut pas les atteindre, la veine. Comme Diai Runtai, Oi Esti, Oi Eis Duo, Diai Runtai. Donc, par la méthode de division, on ne peut pas atteindre les espèces indivisibles. Essayez de bien comprendre ça, puisque bon, c'est ça que je cherche Aristote. La méthode de division implique toujours une diaphora. Hein. C'est toujours le problème de la méthode de division, c'est d'impliquer la diaphora. La diaphora ne nous dit rien de la privation. Elle ne peut rien nous dire, puisque la privation n'implique pas de diaphora. Donc, la méthode de division ne peut pas aller jusqu'au bout, jusqu'à l'atome, ne peut pas aller jusqu'à la forme ultime. Et vous comprenez tout de suite pourquoi, j'espère. Ça aurait pu se dire plus facilement. C'est la question du divisible. C'est le quantitatif. Toute méthode divisible implique regard quantitatif. Or, l'atoma, l'idée atoma, la forme indivisible, ne peut pas être divisée.
La forme matière.
La forme
intelligible.
C'est la forme intelligible, forcément, c'est Eidos. Aïdé. Aïdé. Eidos. Typomorphé. Oui. Eidos. Donc, la forme atoma est indivisible. Est ultime. Est indivisible. Bon, si elle est indivisible, la méthode de division n'a rien à faire avec elle. Donc la méthode de division n'atteint pas les formes atomiques. Donc, une méthode de division ne peut pas nous faire sauter, ne peut pas nous faire saisir un principe. Vous voyez, Aristote se trouve en face de Platon. Platon se sert de la méthode de division, de dichotomie, pour tout. C'est la grande méthode. Alors Aristote dit très bien, mais vous ne pourrez jamais saisir un principe. Donc une cause. Et c'est pour ça qu'il reprend la méthode inductive. L'induction seule permet de saisir une cause. Une eido atoma. C'est évident. Hein? Je crois que c'est une évidence palpable. Mais Aristote prend tout le détour de la privation. Oui. Oui.
L'atome moderne ou...
Non, surtout pas, surtout pas. Non, l'atome moderne vient de là. Ceux qui résistent à la division. Et on pourra encore diviser. Mais au fond, c'est ça. L'atoma vient. Ouais, c'est grec. Atome. C'est la forme indivisible. Oui. Quand vous parlez de l'atome, vous ne mettez pas eidos. Là, c'est la forme indivisible, tandis que la forme quantitative est divisible.
Donc, ça va même plus loin que la forme simplement intelligible, que le
ah oui, oui. Ah, tout à fait, tout à fait. Et puis, elle est au-delà de l'indivisible, donc elle est au-delà de la quantité.
Oui, donc, on peut même pas dire forme aïdétique.
Forme
aïdétique.
Ah, c'est la forme, ce serait une répétition. Prenez, pour Aristote, il y a en face de Platon, c'est toujours en face de Platon qu'il est obligé de parler. Hein. Il y a donc, pour Platon, tout est eidos. Tout est forme intelligible. Et la forme en soi, eidos katoto, c'est la forme intelligible. Aristote va distinguer l'eidos et la morphée. La morphée, c'est la forme dans la matière. Oui.
Et pour l'œuvre d'art, comme l'oiseau avec le doigt, qui est la langue de l'œuvre.
Ici. L'œuvre d'art. Ah, l'oiseau, là. Le pélican.
Il est l'aigle, le pélican.
Mais c'est le pélican, ça. C'est le pélican plus que l'aigle. C'est un pélican, ça. Eh bien, un petit pélican. D'un coup, vous allez voir qu'il va voler. Tiens, vous serez impressionné. Dans l'œuvre d'art, il y a l'eidos qui est dans l'esprit de l'artiste. L'inspiration est source de l'eidos. Et l'eidos va se réaliser dans la matière et l'eidos deviendra morphé. Dans la mesure et dans la matière. Dans l'esprit de l'artiste, l'eidos est atomique. Et dans la réalité, elle n'est plus atomique. Vous pouvez la toucher. C'est difficile, on peut couper quelque chose là-dedans. C'est pour ça que seul l'eidos de l'artiste est cause et principe. Dans la réalité, elle n'est plus cause et principe. Elle est la matière. Prisonnière de la matière. En effet, à leur avis même, il faut que les différences dernières soient en nombre égal à tous les groupes animaux spécifiquement indivisibles. Voici par exemple tel genre, dont la caractéristique est la blancheur. Les deux membres de la division se différencient par d'autres caractères, et ainsi de suite, jusqu'aux indivisibles. Les dernières différences seront au nombre de 4, ou en un autre nombre, mais toujours en doublant à partir de l'unité. Et les espèces seront en nombre égal. D'autre part, l'espèce est précisément la différence dans la matière, la diaphore dans la matière. C'est ça l'espèce, c'est la diaphore dans la matière. Car sans matière, aucune partie d'animal ne peut exister, non plus que la matière toute seule. Ce qui n'a pas de corps du tout, en effet, ne sera pas un animal, ni une partie d'animal, comme on l'a dit souvent. Autre chose. Il vide son sac, là. Il vide toute une série de données qu'il a fait. Autre chose. Il faut diviser au moyen de différences qui portent sur l'essence et non sur de différences dérivées, même nécessaires, c'est-à-dire les propriétés, comme qui diviserait les figures géométriques en figures qui ont leurs égales, en figures qui ont leurs angles égaux à deux droits, et figures qui ont ces angles égaux à plus de deux droits. Car c'est un accident du triangle d'avoir ses angles égaux à deux droits. Est-ce que c'est un accident? Oui. Car c'est un accident du triangle d'avoir ses angles égaux à deux droits. Vous êtes d'accord? Vous avez ça une propriété. Mais la propriété est un accident. Donc on retombe sur ses pattes. Oui, 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 mais ça c'est autre chose. Ce n'est pas l'acuité, ce n'est pas l'essence du triangle, mais c'est la propriété. Tout triangle a toujours ça. Oui. La propriété est un accident nécessaire. Mais c'est un accident. Ce n'est pas l'essence du triangle. Donc, c'est ce qu'il avait mis. Il faut diviser au moyen de différences qui portent sur l'essence et non de différences dérivées. Oui. Donc il faut diviser à partir de l'essence et non pas à partir de la propriété. Une vraie division se prend toujours de l'essence et non pas des propriétés. Tandis que la méthode dichotomique ne peut pas faire la différence, parce qu'elle ne sait plus. Autre chose, il faut diviser suivant les différences, des différences opposées. Donc c'est toutes les grandes lois de la division qu'Aristote donne là. Il faut diviser suivant les différences opposées, car les opposés sont différents les uns des autres. Par exemple, blanc et noir, droit et courbe. Si donc l'un et l'autre soient différents, si donc l'un et l'autre soient différents, qu'on divise par l'opposé, mais non suivant la notation d'une part et la couleur de l'autre. De plus, pour les êtres animés, qu'on ne les divise pas suivant des fonctions communes au corps et à l'âme. Donc, de plus, pour les êtres animés, qu'on ne les divise pas suivant des fonctions communes au corps et à l'âme. Par exemple, comme on vient de le faire, suivant la marche et le vol, il y a des gens qui ont l'un et l'autre, qui comprennent, oui, qui comprennent des animaux ailés et d'autres sans ailes, tel le genre des fourmis, ni selon l'état de sauvagerie ou de domestication. Alors, en effet, il faudrait diviser des espèces pourtant homogènes, car à peu près tous les animaux domestiques se rencontrent aussi à l'état sauvage. Oui, pour montrer les fausses divisions, diviser l'animal en animal domestique et animal sauvage, ça ne signifie rien. Ça ne fait pas avancer d'un pouce. Puisque animal sauvage ou animal domestique, c'est la même espèce. Vous avez tous rencontré des éléphants domestiqués. Hein, on voit ça dans les cirques. Et vous avez rencontré des éléphants sauvages. C'est plus intéressant. Parce qu'on les voit à l'état nature. Tandis que quand ils sont domestiqués, ils jouent du piano. À ce moment-là, ça n'a plus aucun intérêt. J'aime mieux entendre un homme jouer au piano qu'un éléphant. Plutôt, normalement. Tandis qu'un éléphant, c'est lourd. C'est un éléphant qui joue du piano. Ça a son poids d'éléphant. Alors, donc oui, c'est montrer les fausses divisions. La division doit porter sur l'essence. Si la division porte sur l'essence, la division ne peut pas aller jusqu'au bout, puisque l'essence est une forme atomique. C'est ça toute l'astuce d'Aristote, vous comprenez ? C'est de montrer que la division ne peut porter que sur l'essence, et que l'essence ne peut pas diviser. Donc, la méthode de division est une méthode seconde. Pas une méthode au sens strict scientifique. Scientifique au sens Aristote, hein. C'est-à-dire la découverte des causes propres. C'est montrer les limites de la méthode de division. C'est une méthode secondaire, c'est pas une méthode première. Donc c'est pas une méthode philosophique. C'est une méthode logique. Mais pas philosophique. Elle présuppose toujours autre chose. Face à Platon, c'est astucieux. C'est montré que si Platon emploie cette méthode de dichotomie d'une façon absolue, ça prouve que Platon n'a jamais atteint l'essence. C'est la critique la plus sévère. Lui qui cherchait l'homme en soi. Eh bien, vous n'avez jamais découvert l'essence de l'homme. Et vous cherchez éperdument l'homme en soi par la méthode dichotomique. Et c'est le disciple qui critique le maître. Et que les critiques, hein, allant jusqu'au bout. Alors, chacun se détermine par plusieurs différences, l'oiseau et le poisson. Par plusieurs différences, sans qu'on ait recours à la dichotomie. Car suivant cette dernière, ou bien on ne saisira pas l'ensemble, le même être tombera à la fois dans plusieurs divisions, et les opposés tomberont dans la même. Ou bien il y aura une seule différence, celle-ci ou bien sera simple, ou bien sera complexe, et constituera l'espèce dernière. S'il est impossible de prendre la différence de la différence, il faudra assurer la continuité de la division de la manière dont est faite l'unité d'une phrase, par une conjonction. Ça, c'est aussi très joli, hein ? C'est aussi très joli. Au fond, la méthode dichotomie est juste pour le langage. Elle n'est pas juste pour le réel. Et donc, Platon a confondu le réel et le langage. Oui, la différence de la différence. Dans quel livre ?
On définit par exemple un terme homme animal raisonnable, comprenant qu'il recherche la dernière des différences. Pour ne pas dire par exemple l'homme est un animal bipède. Alors il supprime tout ce qui ne peut pas être de faire, tout ce qui ne peut pas faire partie de la définition.
Oui, oui. ça qu'il conduit à la définition. Oui. Pour conduire à la définition, il prendra le genre et les différences spécifiques, ou le propre. Oui. Qu'il ne sera pas une opposition. Entre le genre et le propre, il n'y a pas d'opposition. Donc, il y a deux expériences différentes. Vous voyez, la dichotomie, elle existe quand on part d'une idée. Alors, on divise, on subdivise. Quand on part de l'expérience, on n'a pas besoin. On va saisir le genre et le propre. Et le genre et le propre ne s'opposent pas par la différence. Ils peuvent se déterminer. Je crois que c'est ça qui est sous-jacent. Vous voyez ? La réalité n'implique pas le point de vue de la division et l'opposition. Ce sont les idées. Continuons. S'il est impossible de prendre la différence de la différence, il faudra assurer la continuité de la division, de la matière, de la manière dont on fait l'unité d'une phrase. Vous voyez, ça c'est capital. L'Aristote dénonce comment, si on se sert de la méthode de dichotomie, c'est parce qu'on confond la réalité et le langage. Ça je crois. C'est pas dit explicitement, j'explicite un peu en disant ça. Mais je crois. On peut employer la méthode dichotomie dans un langage, dans un discours. Je veux dire que c'est ce qui arrive à ceux qui divisent en ailés et non ailés. Puis l'ailés en... Puis l'ailés en domestique et sauvage. L'ailé en domestique et sauvage, ou en blanc et en noir. Car domestique et blanc ne sont pas des différences de l'ailé. Mais la différenciation provient d'une autre origine et se trouve là par accident. C'est pourquoi il faut, comme nous le disons, diviser immédiatement en plusieurs section. De cette façon, les privations apportent des différences, tandis que dans la dichotomie, elles ne peuvent en constituer. Hein? Alors voyez ici, hein, il arrive à cette petite conclusion. C'est pourquoi il faut, comme nous le disions, diviser immédiatement en plusieurs sections. De sorte que les privations apportent des différences, tandis que la dichotomie, elle, ne peuvent en constituer. Oui.
Est-ce qu'il y a une différence de nuance importante entre la dichotomie et la dialectique ?
La dialectique.
La méthode dialectique. Oui, oui. C'est la méthode que vous appelez la
dichotomie. C'est assez proche. C'est assez proche. Je crois que la différence, c'est que le point de vue dialectique sera dans le raisonnement, tandis que là, on est au niveau des prédicables, des attributions. Et je crois que l'une engendre l'autre.
Oui,
elle est fond... oui, oui, elle est plus fondamentale. Elle regarde l'appréhension. Oui. C'est l'appréhension qui implique la dichotomie. C'est une manière d'utiliser l'appréhension. Attribution. Ça va, vous comprenez tout ? On va y aller. Qu'il soit impossible d'obtenir aucune des espèces individuelles par division du genre en deux, comme certains l'imaginent. Vous voyez ? L'Aristote nous montre bien pourquoi il fait cette critique. Hein. Qu'il soit impossible d'obtenir aucune des espèces individuelles par division du genre en deux, comme certains l'imaginent, cela ressort des arguments suivants. Donc, on va recommencer, à bien montrer. Voyez, le genre, la division du genre. Tout ça, c'est de la logique, hein ? C'est une critique de la logique. C'est au fond, c'est ce qu'ils font d'une méthode. Donc ils montrent que la méthode de dichotomie, de division, poussée à l'extrême pour tout, ne vous dit rien. C'est ça que ça montre. Tout n'est pas divisible. Et le divisible présuppose autre chose. Donc ici, on va partir du genre. Le genre est un tout. Point de vue de sa signification. Un tout confus. Et quand vous parlez du genre, pensez toujours à animal. C'est le genre que vous connaissez le mieux. Pensez à animal. D'accord ? C'est un tout confus, animal. Point de vue de sa signification. Il soit impossible d'obtenir aucune des espèces individuelles par division du genre en deux, comme certains l'imaginent, cela ressort des arguments suivants. Impossible en effet qu'une seule différence appartienne aux espèces que l'on distingue, soit que ces différences soient simples, soit qu'elles soient complexes. Simples, qu'elles comportent ou non des subdivisions, ainsi le pied à fente multiple par rapport au pied fendu. Quelques exemples qui reviennent tout le temps. Et Aristote exprès donne des exemples très simples pour qu'on ne parte pas dans l'imaginaire. Complexe, comme toute la division suivant la fente des pieds. C'est pourquoi ce que réclame la continuité des différences venant du genre par division. Car le tout doit former quelque chose d'un. Mais en dépit de ce qu'on prend, de ce qu'on prétend, la dernière différence se trouvait toute seule, pied à multiples divisions ou bipèdes. Et le pourvu de pied ou à plusieurs pieds, se trouve être inutile. Il n'y a plus l'opposition, il n'y aura plus qu'une seule, donc elle sera indivisible. Et on devra la saisir par une méthode qui n'est pas la méthode de division. Oui. Au fond, c'est mettre très en relief la nécessité de l'induction. Il est évident qu'il ne peut pas y avoir d'autres différences. En effet, en progressant toujours, on arrive à une différence ultime. Mais ce ne sera pas la dernière, ni l'espèce. Celle-ci sera ou le pied fendu seulement, ou tout le complexe. Ainsi, on définira l'homme en réunissant, pourvu de pieds, bipèdes, pieds fendus. Si l'homme était seulement pied fendu, ainsi se constituerait une différence unique. Ainsi se constituerait une différence unique. Mais comme ce n'est pas le cas, il faut qu'il y ait plusieurs différences qui ne rentrent pas sous une même division. D'autre part, il n'en est pas possible qu'il y ait plusieurs différences sous une même dichotomie. Et les distinctions procèdent une à une jusqu'à la fin. Ainsi, il est impossible d'atteindre n'importe quelle espèce dernière des animaux par la méthode de division en deux. Mais c'est toujours la même chose. On aboutit à une impasse. La méthode de dichotomie aboutit à une impasse. Pourquoi ? parce qu'on fait de cette méthode qui regarde quelque chose de second, on veut en faire un absolu. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'Aristote attaque Platon par la méthode. Il montre qu'au fond, Platon est esclave de sa méthode. Et que si on est esclave de sa méthode, l'intention profonde qu'on a, on ne l'atteint pas. Parce que toute méthode est quelque chose de second. C'est ce qu'Aristote dira dans les analytiques. Toute méthode implique une argumentation. Or, l'argumentation est toujours quelque chose de second. C'est jamais premier. Ça va très loin comme critique des sciences.
De philosophie de la nature par le père Philippe à Rimont le 27 janvier 1989.
Y a-t-il des questions ? Dès là, hein, si on veut essayer de comprendre, Platon, lui, divise le genre qui est un tout confus. Bon, on divise le genre. Et on croit qu'en divisant le genre, on va obtenir un principe. Alors que pour Aristote, nous avons deux claviers d'intelligibilité. Un premier clavier d'intelligibilité qui est selon notre conditionnement humain, selon la raison. Alors on pense par genre et différence spécifique. La différence spécifique divise le genre. Et la différence spécifique implique rationnel, irrationnel. Donc il y a une division. Le genre est divisé par la différence spécifique. La différence spécifique, on la connaît très peu, donc c'est ordinairement par le propre. C'est le propre qui remplace la différence spécifique. Alors, on divise le genre, mais on ne dépasse jamais cette connaissance générique. Donc on atteint toujours d'une manière confuse la réalité et d'une manière abstraite selon le genre. Pour Aristote, la seconde manière, c'est justement l'induction qui conduit, elle, à la saisie des principes. Alors, l'induction se sert aussi de la division, mais pas du tout de la même façon. L'âme de l'induction, c'est mettre en pleine lumière le principe source d'unité dans la diversité. Donc, on constate, c'est ça la différence, on constate la diversité, on constate la division, on ne la fait pas. C'est ça toute la différence. Là, on fait la division. C'est l'intelligence qui divise le genre, comme en mathématiques. Connaissance où l'intelligence est active et elle fait la division. Oui.
Est-ce que c'est pour ça que, comme c'est l'intelligence qui fait la division pour Platon, c'est immédiatement une division entre affirmation et négation?
Tout à fait, toujours.
Par exemple, elle est et non elle est.
Oui, elle est rationnelle et non rationnelle. Ça ne peut être que comme ça.
Le critère de sa division, au fond, il est pris comment? Par exemple, pour...
Le critère de sa division entre rationnel, c'est la division. L'opposition entre les deux.
Pourquoi choisir tel, par exemple, dans le sophiste, quand on voit, quand il cherche à avoir placé le sophiste,
oui.
Pourquoi est-ce que c'est, par exemple, les oiseaux, les animaux aquatiques ou non aquatiques,
oui. Il y a une part de constatation. C'est pas uniquement l'intelligence qui fait, mais en dernier lieu, c'est quand même affirmation et négation. Vous voyez? Donc, je crois qu'il y a une part, c'est pas... C'est évident que même la connaissance par genre relève sur l'expérience. Mais c'est une simplification, je dirais, où on ne retient que ces éléments opposés. La connaissance de la diversité constatée dans les faits est beaucoup plus riche. Oui. Et vous ne cherchez pas à trouver dans la diversité blanc-noir, blanc-non-blanc, rationnel, non rationnel, et vous acceptez cette diversité telle qu'elle est, et vous jugez l'unité.
C'est pour ça qu'il y a une description qui est antérieure à toute induction.
Tout à fait, tout à fait. À toute induction, il y a une description de la diversité et de l'unité. Et c'est l'unité qui me permet de saisir le principe. Tandis que là, je demeure. L'unité, c'est quoi? C'est le tout confus, c'est le genre. Donc c'est le divisible. Le tout confus, il est divisible. Et alors, je me demande si en mathématiques, ce sera la grosse question qu'il faudra poser en mathématiques, vous n'allez pas à Paris pour le cours de mathématiques, et le professeur Samuel n'est pas là trop, j'aurais dû poser cette question. Est-ce que ce n'est pas un mélange des deux? En mathématiques, on ne quitte pas la connaissance générique du divisible. Les mathématiques demeurent liées au genre, elles demeurent liées à la quantité, toujours. Donc divisible. Et cependant, il y a un tout petit peu d'analogie. Mais il n'y a pas d'induction mathématique. Les matheux, là. Il n'y a pas d'induction en mathématiques. Les mathématiques n'impliquent pas l'induction. Oui, c'est lui. Qu'est-ce qui est le plus matheux là-dedans? C'est vous. Quoi?
Moi, je suis moins matheux.
Ah, vous êtes le moins matheux? C'était comme le père de haut. Le père de haut disait tout le temps qu'il était nul en mathématiques, qu'il n'avait jamais rien compris en mathématiques. Et de ce temps-là, on pouvait passer un macho sans rien comprendre. Maintenant, c'est plus difficile. C'était un littéraire, un artiste. C'est curieux, hein, il y a comme ça toujours un peu une coupe. Et il y a des artistes qui sont matheux et des matheux qui sont artistes. Mais ordinairement, c'est plutôt une opposition entre les deux. Bon. Vous voyez, alors évidemment, ça c'est l'analyse philosophique. L'analyse philosophique ne se trouve dans toute sa perfection qu'en philosophie, et même qu'en métaphysique. Il n'y a qu'en métaphysique où on abandonne le genre. L'être n'est pas un genre. Tandis que dans toutes les autres parties de la philosophie, la donnée générique est présente. Et dans toutes les sciences, la donnée générique est présente. C'est pour ça que ce type de connaissance existe toujours, sauf en métaphysique. La métaphysique seule peut se libérer du genre. Et alors, elle ne prend plus que l'induction à l'état pur. C'est pour ça que c'est difficile. Oui, tandis que ce que dit Aristote d'une façon très belle, du reste, dans le livre, c'est dans le livre Gamma, où il dit que toutes les autres parties de la philosophie ne regardent qu'une partie de l'être. Si c'est une partie de l'être, c'est donc il n'y a pas suffisamment de trouver le genre. Tandis que l'être n'est pas dans un genre. Oui. Et c'est la force de cette affirmation. Quand Aristote dit l'être n'est pas dans un genre, ça veut dire que la connaissance métaphysique est totalement analogique. Et elle est commandée par l'induction.
Et est-ce que la saisie du principe va donner une autre connaissance générique
et... Ah non,
est-ce qu'elle ne va pas avoir plus qualitative?
Elle est au-delà du genre.
Mais est-ce qu'elle ne va pas aider à avoir une connaissance générique
plus... Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que si je suis bon en métaphysique et que j'ai découvert les inductions, suis-je plus intelligent? Oui. C'est bien.
C'est, par exemple, est-ce qu'on a besoin de la saisie de l'âme pour avoir un gap sur les parties des animaux, ou est-ce que c'est purement une connaissance générique et spécifique?
La connaissance des parties des animaux n'est pas du tout générique, chez Aristote. Elle est très analogique. Tout le temps.
On voit la différence entre l'histoire des animaux et tous les autres traités. L'histoire des animaux, c'est vraiment cette classification
pour... Classification. Genre et différence spécifique. Classification. Tandis qu'au contraire, les parties des animaux, alors là il y a un aspect beaucoup plus, c'est le corps. C'est la philosophie du corps. Vous voyez ? Une philosophie du corps n'est pas générique. Elle doit être analogique. Bon, on continue là, pas d'autres questions. Mais c'est ça qu'il faut saisir. Et ça c'est capital. Vous comprenez ? Si on ne voit que le genre est différent spécifique, la définition devient la chose principale en philosophie. Il faut définir. Tandis que si on comprend l'importance du principe et des causes, alors à ce moment-là, le principe et la cause dépassent la définition. Et je ne peux pas définir un principe. Un principe, ça ne se définit pas, ça se saisit. Mais nous mettons longtemps, il faut se dire, on met longtemps à comprendre ça. On comprend bien que l'un est qualitatif et l'autre est quantitatif, ça c'est sûr. Le genre ex parte materiae. Tandis que le principe, jamais. La matière est bien un principe, mais un principe fondamental, plutôt une condition sine qua non qu'un principe. C'est un gros principe.
On ne peut pas parler de genre dans...
Oui, on peut parler de genre en théologie. Puisqu'on peut parler des substances séparées comme générique. Ce sont des substances séparées. Et j'ai une connaissance générique des anges. Pas analogique. Mais générique. C'est terrible. Tandis que j'ai une connaissance analogique de mon âme. Je connais mieux mon âme. Vous voyez, puisque l'ange échappe complètement à la philosophie. Donc je n'ai qu'une connaissance de foi. Très, très obscure. Oui.
Mais sachant que l'ange est un spirituel et que moi aussi.
Oui.
J'ai un petit
crois que je suis le dernier des anges. Le petit piou-piou en arrière qui court. Non. Donc je suis le dernier des anges. Donc j'ai une connaissance très 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 analogique de l'ange. Alors. Il est évident qu'il ne peut y avoir d'autres différences. Alors, je vais peut-être dire un petit peu avant. Qu'il soit impossible d'obtenir aucune des espèces individuelles par division du genre en deux. Par division du genre en deux. Comme certains l'imaginent. Cela ressort des arguments suivants. Impossible en effet qu'une seule différence appartienne aux espèces que l'on distingue. Soit que ces différences soient simples, soit qu'elles soient complexes. Simple, qu'elle comporte ou non des subdivisions. Ainsi, le pied à fente multiplie par rapport au pied fendu. Complexe, comme toute la division, suivant la fente des pieds. C'est pourquoi ceux qui réclament la continuité des différences venant du genre par division, car le tout doit former quelque chose d'un. Mais en dépit de ce qu'on prétend, la dernière différence se trouve être toute seule, pied à multiples divisions, ou bipède, et le pourvu de pied, ou à plusieurs pieds, se trouve être inutile. C'est évident que quand on a la dernière différence, toutes les autres différences sont inutiles, puisque la dernière contient toutes les autres. Il est évident qu'il ne peut y avoir d'autres différences, en effet, en progressant toujours, on arrive à une différence ultime. Mais ce ne sera pas la dernière, ni l'espèce. Oui, c'est ça qui est très, très, très curieux. Quelle différence y a-t-il entre cette différence ultime et le principe? C'est là où il se fait la confusion. Puisque la différence actue, elle se prend du côté de la forme. La différence ultime, puisqu'il n'y en a pas au-dessus, c'est donc quelque chose qui est en acte. Comme le principe. Alors, quelle différence y a-t-il entre la différence ultime et la cause formelle?
La différence ultime n'explique pas l'unité, ne rend pas compte de l'unité, alors que le principe rend compte de l'unité de la réalité.
La différence ultime,
alors,
oui,
n'explique pas l'unité.
Elle est relative au genre.
Qui lui repose sur
le genre. Autrement dit, genre, différence spécifique, espèce propre, accident, ça se tient. Il n'y a pas de différence sans genre. Donc même la différence ultime. C'est pour ça qu'elle n'explique pas l'unité. Parce qu'elle est relative au genre. Et le genre est toujours un tout confus. Donc la différence ultime est contaminée par le genre. Elle n'est pas au principe. Elle est relative.
C'est l'université, n'est-ce
pas? Oui, c'est l'université. Tandis que le principe est toujours saisi analogiquement et qualitatif. Tandis que là, il y a quelque chose de très particulier qui fait que même la différence ultime, qui, d'une certaine manière, on ne peut pas aller au-delà. Cependant, elle est relative au genre. Parce qu'elle est un universel. Elle est imprédicable. Donc elle est un universel. Un universel qui actue le genre. Et qui, en actuant le genre, nécessairement va elle-même être relative. On est donc, c'est un tissu de relations. Plus intime de notre connaissance, notre intelligence dans son conditionnement rationnel implique toujours genre, différence spécifique, propre, espèce, propre, accident. Toujours.
Est-ce que dans les mathématiques, on peut dire que l'un joue le rôle de différence spécifique comme de principe qui...
Il joue le rôle comme de principe. Vous voyez, c'est ça que m'intéresserait de voir, C'est dans les qui, dans les connaissances mathématiques, la différence spécifique ultime est principe. Je crois. On peut pas faire la différence. Parce que pour pouvoir faire la différence, il faut le jugement d'existence. Le principe est lié au jugement d'existence. Alors que le genre est séparé du jugement d'existence. Et la différence spécifique aussi. C'est le domaine des idées. Oui. Tandis que le principe est toujours lié au jugement d'existence. Le principe est plus réaliste que la différence spécifique. Alors, continuons. Il est évident qu'il ne peut y avoir d'autres différences. En effet, en progressant toujours, on arrive à une différence ultime. Mais ce ne sera pas la dernière, ni l'espèce. Celle-ci sera ou le pied fendu seulement, ou tout le complexe. Ainsi, on définirait l'homme en réunissant, pourvu de pieds, bipèdes, pieds fendus. C'est une définition admirable de l'homme. Mais présentez vos pieds, on vous comprendra. Tout est contenu dans le pied, comme tout le monde sait. C'est pas la médecine par le pied. Bien. Si l'homme était seulement pied fendu, ainsi se constituerait une différence unique. Mais comme ce n'est pas le cas, il faut qu'il y ait plusieurs différences qui ne rentrent pas sous une même division. D'autre part, il n'est pas possible qu'il y ait plusieurs différences sous une même dichotomie. Mais les distinctions procèdent une à une jusqu'à la fin. Ainsi, il est impossible d'atteindre n'importe quelle espèce dernière des animaux par la méthode de division en deux. Parce que c'est la relation, donc on en saisit toujours deux. Il y a le genre qui est toujours présent. Alors, chapitre 4. On pourrait se demander pourquoi, dès le début, les hommes n'ont pas désigné à la fois les animaux aquatiques et les animaux volants en les réunissant en un genre unique par l'imposition d'un seul. On voit très bien cette question d'Aristote. Vous voyez bien. Il y a les animaux aquatiques et les animaux volants. Bon, c'est très vieux. Et dans l'évolution, vous savez bien, la perspective, on voit l'animal aquatique, puisque tout vient de l'eau, qui sort de l'eau et qui progressivement devient volant. Hein? Alors, Aristote dit, il y a quelque chose qu'il faut dire. Hein? Pourquoi? On pourrait se demander pourquoi. Aporesei dan diati. Pourquoi ? Dès le début, les hommes n'ont pas désigné à la fois les animaux aquatiques et les animaux volants. Animaux volants. Donc tous les deux sont des animaux. Différence spécifique en destin propre. Y a-t-il un genre commun? Est-ce que c'est... Pour que ça aille parfait, il faut que l'un exclue l'autre. Hein? Rationnel, irrationnel. Alors, on est devant une division ultime. Alors, ça doit s'amuser. En les réunissant en un genre unique, par l'imposition d'un seul nom. En effet, il y a certaines propriétés qui leur sont communes. Ainsi qu'à tous les autres, d'ailleurs, tous les autres animaux. Il y a le genre animal. Mais vous voyez, animal aquatique, animal volant, ça n'épuise pas animal. Est-ce que ça épuise animal? Non. Pour que ça épuise animal, il faudrait que ça se donne rationnel et non rationnel. Ça épuise. La division là, est adéquate par rapport à tout. Tous les animaux sont ou rationnels ou irrationnels. Tous les animaux sont-ils aquatiques ou volants? c'est pour éviter le petit serpent. On est aquatique, je sais bien qu'il y a des serpents qui vont dans l'eau. N'est-ce pas ? Aquatique. Il est à mille pattes. Cet animal aquatique ou volant. Aquatique. Les vers vont dans l'eau. Alors, en effet, il y a certaines propriétés qui leur sont communes, ainsi qu'à tous les autres d'ailleurs. Ce n'est pas mal fixé pourtant de cette façon. Tous les genres, en effet, qui ne diffèrent entre eux que par l'excédent et par le plus et moins, sont réunis dans un seul genre. Tous ceux qui n'ont qu'un rapport d'analogie sont séparés. Je veux dire qu'un oiseau diffère d'un oiseau par le plus et le moins.
Au lieu de rationner les rationnels, est-ce qu'on pourrait pas prendre vertébrés ou invertébrés ?
C'est pas la même chose, vous tout.
Est-ce que ça épuise aussi ?
C'est propre. Vertébrés ?
Et invertébrés, ça épuise à
des mains ? Ça épuise tous les animaux. Tu crois pas ? Tu crois pas ? Quoi ? La limace.
Oui. De comprendre de toute façon des oppositions, des contradictions, on a automatiquement quelque chose qui est effectif.
C'est jamais absolument adéquat. Ça comprend affirmation et des. Vous voyez ? Parce que c'est une opposition de contrariété. Toute opposition de contrariété peut avoir une opposition de privation.
Et quand c'est une.
Il y a un néanmoins.
Mais ça, c'est une opposition de privation, justement. Parce que c'est
oui.
Vertébré et puis non vertébré.
Non vertébré, là, ça, c'est absolu. Oui. Mais c'est par la négation, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc par un être de raison. Puisque la privation, c'est un être de raison. Donc quelque chose que l'homme a fabriqué. Et par le fait même, ce n'est plus la diversité analogique. C'est une diversité univoque. La négation ne peut venir que dans une diversité univoque. Je crois. Point d'interrogation. Je veux dire qu'un oiseau diffère d'un oiseau par le plus et le moins, suivant l'excédent. L'un a de grandes ailes, l'autre de petites. Donc il est plus oiseau. L'aigle royal. Et parmi les animaux, l'aigle est roi, et donc il est le lion. Il est le lion. Mais que les poissons diffèrent des oiseaux, suivant un rapport d'analogie, ce qui pour l'un est plume, pour l'autre est écaille. C'est plus difficile de manger les écailles que les plumes. Mais ils ne sont pas faits pour être mangés, ni l'un ni l'autre. À la vérité, ce classement n'est pas facile à appliquer à tous, car l'analogie se trouve être la même pour beaucoup d'animaux. En effet, ce sont les espèces dernières qui sont substances. Et comme celles-ci sont indivisibles en d'autres espèces, Socrate et Coriscos, par exemple, il s'ensuit nécessairement, ou bien qu'on doit exprimer en premier lieu les propriétés universelles, ou bien répéter plusieurs fois la dernière chose, comme cela a déjà été dit. Ce qui est général, encore, ce qui est général est commun. Nous appelons général ce qui ne se rencontre, ce qui se rencontre plusieurs. Donc il est commun. C'est très ennuyeux pour le général d'être commun. Mais la question qui se pose est de savoir comment procéder. Comme c'est ce qui est spécifiquement indivisible qui est substance. Et ça, c'est aussi très intéressant. Vous y aussi. Il dit que la différence ultime est vous y a. Vous y a seconde. Pas vous y a première. Donc pas vous y a métaphysique. Vous y a forme. Mais la question qui se pose est de savoir comment procéder. Comme c'est ce qui est spécifiquement indivisible qui est substance, le meilleur serait de pouvoir examiner séparément les particuliers et les espèces indivisibles. Et de même qu'on procède pour l'homme, procéder ainsi pour l'oiseau. Car ce genre possède des espèces, mais étudier chacun des groupes indivisibles chez les animaux, moineaux, grues ou tel autre, conduirait à se répéter à propos de la même fonction par suite de son attribution commune à plusieurs. Ainsi, cette étude isolée de chaque espèce est assez peu raisonnable et sujette aux longueurs. Sans doute, donc, la méthode satisfaisante consisterait, elle, à traiter des propriétés communes des gens, de tout ce qui a été déterminé de façon exacte par les hommes, c'est-à-dire de tout ce qui possède une nature unique et où les espèces ne sont pas très distinctes, pas très distantes les unes des autres, comme le poisson et l'oiseau, et tout autre groupe qui n'aurait pas reçu de nom, mais où le genre enveloppe pareillement les espèces. Pour le reste, qui n'offre pas ces caractères, il faut l'étudier isolément. Ainsi l'homme et tout autre animal qui se présente de même façon. Donc, il montre qu'il y a une étude philosophique spéciale pour l'homme. Mais c'est ça qui l'intéresse. C'est à peu près uniquement par la configuration des parties et du corps tout entier, en tant qu'elles comportent des ressemblances, qu'on détermine les genres. Ainsi, le genre des oiseaux par rapport les uns aux autres est celui des poissons, celui des céphalopodes et celui des crustacés. Les parties diffèrent, alors, non suivant un rapport d'analogie, ainsi dans l'homme et le poisson, le rapport de l'os à l'arête. Quand vous avez une arête dans la dent, vous dites quel os ? C'est analogique. Alors on comprend tout de suite. Mais plutôt par de simples modifications matérielles. Grandeur, petitesse, mollesse, dureté, surface lisse ou rugueuse, ou une autre propriété de ce genre, en général, suivant le plus et le moins. C'est très curieux, les classifications. Parce qu'on ne connaît pas la différence spécifique. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir une philosophie du poisson, ou de l'éléphant, ou du crustacé, ou du serpent. Parce que vous ne connaissez pas la différence spécifique. Or, il ne peut y avoir une philosophie que si on connaît la différence spécifique. Seul l'homme, dont on connaît la différence spécifique. On vient donc d'exposer la méthode qu'il faut adopter dans l'étude de la nature, la marche à la fois la plus directe et la plus facile dans l'examen des êtres naturels. On a traité aussi de la division. De quelle façon on peut l'utiliser avec profit et des raisons pour lesquelles la dichotomie est tantôt impossible, tantôt inefficace. Après ces éclaircissements, passons à ce qui suit. En prenant le point de départ que voici. Vous voyez ça ? Alors on lit un tout petit peu l'intérêt de la biologie. C'est intéressant. C'est rapide, tu vois. Parmi les substances de la nature, tone ou ione aussi fusaire. Les unes sans commencement ni fin, existe pendant toute l'éternité. Pendant toute l'éternité. Oui, ça c'est les... Parce qu'il y a des... Il y a des corps célestes qui sont des substances de la nature et qui existent toute l'éternité. Je ne sais pas si c'est ça qui dit. Rappelons les grands principes de la distinction entre genre et espèce. Les genres diffèrent par la structure. Les genres diffèrent par la structure et se ressemblent suivant des analogies. Les espèces à l'intérieur d'un même genre se ressemblent par la structure et diffèrent par les propriétés physiques. Pardon, qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est le numéro 37. Ah oui, divin. Oui, les autres sont sujets à naître périls. Sur les premiers rêves, si élevé et divine. La 136, c'est quoi? Quoi?
Vous voulez dire la note 137, notez 137 derrière.
Oui, 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 mais 136. Ça correspond à quoi? 100, 644 B15. Oui, oui, oui. Je regarde. Oui. Alors, il y en a une qui saute?
Non, non, mais là.
Mais oui, mais regardez. Regardez le 136. 644 B15. Quand vous regardez 644 B15, vous avez 135.
Oui, oui, mais tout un décalage.
Tout le décalage. Oui. C'est bon. Alors, Aristote distingue deux sortes de dissemples. Oui, c'est bien ça. C'est les substances corruptibles. Les autres, donc, sont sujettes à naître et périr. Sur les premières, si élevées et divines qu'elles soient, nous ne nous trouvons possédés qu'une somme bien mince de connaissances. En réponse à notre soif de connaître, l'observation sensible ne fournit qu'extrêmement peu d'évidence propre à servir de base à l'étude. C'est évident, la pauvre métaphysique. Au sujet des substances périssables, au contraire, plantes et animaux, nous nous trouvons en meilleure situation pour les connaître, puisque nous vivons avec elles. On embrasse un arbre, on vit avec lui. Les données que nous possédons, on peut tirer beaucoup sur chaque genre, si l'on veut prendre assez de peine. Mais les deux études ont chacune leur attrait. Pour les êtres éternels, les pauvres connaissances que nous en avons nous apportent cependant, en raison de l'excellence de cette contemplation, plus de joie que toutes les choses qui nous entourent. Bien rappelez ça, hein. Tout juste comme un coup d'œil fugitif et partiel sur des personnes aimées nous donne plus de joie que la connaissance exacte de beaucoup d'autres choses, si considérables qu'elles soient. Vous voyez le cœur d'Aristote, hein? C'est bien là, hein? Il aime mieux un regard fugitif sur quelqu'un qu'il aime. Petit clin d'œil. N'est-ce pas ? Que regarde. Quantité. Qualitatif et quantitatif. Mais d'un autre côté, pour la certitude et l'étendue de la connaissance, la science des choses terrestres a l'avantage. De plus, ces choses sont tout près de nous. Elles sont familières. Et cela balance, dans une certaine mesure, l'intérêt de la philosophie sur les êtres divins. C'est très très joli. Puis, je crois que là, il y a tout un aspect psychologique qui est très intéressant d'Aristote. C'est très rare, hein, qu'il se vend d'Aristote. Là, il se vend. De plus, ces choses sont tout près de nous. Elles sont familières et cela balance, dans une certaine mesure, l'intérêt de la philosophie sur les êtres divins. Et puisque nous avons déjà traité de ces êtres divins et que nous avons dit ce qui nous en semble, il nous reste à parler de la nature vivante sans laisser de côté aucun détail, ou pas, ou relevé, selon la mesure de nos forces. À vrai dire, certains de ces êtres n'offrent pas un aspect agréable. On a un peu dégoûté. Mais la connaissance du plan de la nature en eux réserve à ceux qui peuvent saisir les causes aux philosophes de race des jouissances inexprimables. C'est très beau, ça. En vérité, il serait déraisonnable et absurde que nous trouvions du plaisir à contempler les images de ces êtres parce que nous y saisissons en même temps le talent du sculpteur et du peintre, et que, les examinant en eux-mêmes, dans leur organisation par la nature, nous n'éprouvions pas une joie plus grande encore de cette contemplation. Au moins, si nous pouvons saisir l'enchaînement des causes, il ne faut donc pas céder à une répugnance enfantine et nous détourner de l'étude du moins de ces animaux. En toutes les parties de la nature, il y a des merveilles. On dit qu'Héraclite, à des visiteurs étrangers qui l'ayant trouvé se chauffant au feu de sa cuisine, hésitait à entrer, fit cette remarque: entrez, il y a des dieux aussi dans la cuisine. Ça, c'est la vieille remarque, hein, que tout le monde connaît. Eh bien, de même, entrons sans dégoût dans l'étude de chaque espèce animale. En chacune, c'est la cuisine. En attendant qu'ils soient au bibliothèque. De même, donc sans dégoût dans l'étude de chaque espèce animale, en chacune, il y a de la nature et de la beauté. Ce n'est pas par hasard, mais la finalité qui règne dans les œuvres de la nature est à un haut degré. Or, la finalité qui régit la constitution ou la production d'un être est précisément ce qui donne lieu à la beauté. Et si quelqu'un trouvait méprisable l'étude des autres animaux, il lui faudrait aussi se mépriser lui-même, car ce n'est pas sans avoir à vaincre une grande répugnance qu'on peut saisir de quoi se compose le genre humain. Sang, chair, os, veines et autres parties comme celle-là. Le regard, vous voyez, d'Aristote habitué aux choses spirituelles éprouve un dégoût de regarder le sang, la chair, l'os, les veines et d'autres parties comme celle-là. De même, quand on traite une partie ou d'un organe quelconque, il faut garder dans l'esprit qu'on ne doit pas seulement faire mention de la matière et voir là le but de la recherche, mais qu'on doit s'attacher à la forme totale. Ainsi, considérons une maison tout entière, et non pas seulement les briques, le mortier, les bois. Pareillement, dans l'étude de la nature, c'est la synthèse, la substance intégrale qui importe, et non des éléments qui ne se rencontrent pas séparés de ce qui fait leur substance. Il faut donc, en premier lieu, déterminer par analyse, au sujet de chaque genre, les caractères qui sont présentés essentiellement par tous les animaux. Et ensuite, il faut essayer de découvrir leurs causes. Oui, là, il donne une méthode. On a dit précédemment que beaucoup de caractères communs sont présentés par un grand nombre d'animaux, tantôt absolument comme les pieds, les ailes, les écailles, et autres caractères de ce genre, tantôt suivant l'analogie. J'entends par analogie le fait que certains possèdent un poumon, les autres non, et que ceux-ci, à la place du poumon que possèdent les premiers, présentent un autre organe. Les uns sont du sang, ont du sang, les autres quelque chose d'analogue, c'est-à-dire qui joue le rôle que joue le sang dans l'animal supérieur, dans les animaux supérieurs, sanguins. Vous voyez bien, c'est par la fonction qu'on voit les analogies des organes. Traiter isolément de chacune des espèces particulières. Nous avons dit que cela entraînerait de fréquentes répétitions, puisqu'on devrait alors limiter, on devrait alors traiter de tout ce qu'on rencontre en chacune. Et ce sont les mêmes choses qu'on rencontre en une foule d'animaux. Voici donc comment on peut fixer la marche à suivre. Puisque tout organe est en vue d'une fin, que chacune des parties du corps est aussi en vue d'une fin, et que la fin, c'est une action, il ressort que le corps tout entier est constitué en vue d'une action totale. Fin et l'action. La fin de l'animal. La fin de l'animal, c'est se mouvoir. L'action de scier, en effet, n'est pas faite en vertu de ce qui l'opère. Mais c'est ce qui l'opère. Mais c'est ce qui l'opère qui est fait en vue de l'action de scier. Car scier est précisément une action. Par suite, le corps tout entier existe, en quelque sorte, pour l'âme. Et chacune des parties pour la fonction qui lui est naturelle. Il faut donc traiter en premier lieu des fonctions communes à tous, puis de celles qui lui sont propres, celles qui sont propres à un genre. Puis de celles qui sont propres à une espèce. J'appelle commune celles qui se rencontrent chez tous les animaux. Générique, celles qui ne se rencontrent que chez les animaux, qui ne diffèrent les uns des autres à l'observation que par la grandeur. J'entends par exemple le genre oiseau et l'espèce homme, et tout ce qui, d'un point de vue général, ne présentent pas de différence. Les animaux présentent certains caractères qui sont communs suivant l'analogie, d'autres selon le genre, d'autres selon l'espèce. Vous voyez, le commun. Donc par où il y a une idée. Lorsque des fonctions sont subordonnées à d'autres, il est évident que les choses auxquelles appartiennent ces fonctions sont dans le même genre que les fonctions elles-mêmes. Pareil, si certaines fonctions sont antérieures à d'autres, ils se trouvent constitués leur fin. Chacun des organes dont ces fonctions relèvent se trouvera dans la même situation. Et troisièmement, toutes ces conditions étant données, il en résulte nécessairement. J'entends par propriété et action la naissance, la procréation, la veille, le sommeil, la marche et tout ce qu'on rencontre chez les animaux. J'appelle partie le nez, l'œil, le visage entier, partie dont chacune reçoit le nom de membre. Ainsi de tout le reste. Tel est l'opposé de notre méthode. Nous voulons maintenant devenir